Il regarda Alia et vit qu'elle observait Irulan. Mais elle devina son mouvement, rencontra son regard et hocha la tête en se tournant de nouveau vers la princesse. Oui, la réponse qu'ils obtiendraient, quelle qu'elle fût, serait transmise de quelque façon au Bene Gesserit avec l'un des prochains rapports spéciaux d'Irulan. Jamais les sœurs ne renonceraient à trouver la réponse à leur quiz à Tzaderak. Pourtant, il devait répondre pour l'instant à la question de Stilgar, et aussi, en quelque sorte, à celle d'Irulan. Le profane essaie de se représenter la prescience comme obéissant à quelque loi naturelle, commença-t-il. Mais il serait tout aussi juste de dire qu'elle est comme un message du ciel. Lire dans l'avenir est un acte harmonieux de l'être. En d'autres termes, prédire est une conséquence naturelle du présent. Vous le voyez donc, la prescience assume effectivement une apparence naturelle. Mais un tel pouvoir ne saurait être utilisé à partir de buts précis. La prescience ne saurait servir des desseins. Le présent est une vague et aucun des fœtus qu'elle porte ne sait où elle va. Dans l'oracle, il n'existe ni cause ni effet. Les causes y deviennent des courants, des confluents, des points de jonction. Celui qui accepte la prescience laisse pénétrer dans son esprit des concepts auxquels l'intellect répugne, des concepts qu'il rejette. Ce faisant, l'intellect s'intègre au processus. Il est assujetti. « Vous ne pouvez rien faire ?» demanda Stilgar.
« Il pourrait suffire que je tente de découvrir Tupili par les voies de la prescience, » dit Paul, « pour que Tupili me soit caché. »«
Le chaos !» s'exclama Irulan. « Mais tout ceci n'a pas de consistance. »«
Je viens de dire que cela n'obéissait à aucune loi naturelle. »«
Ainsi, il y a des limites à vos pouvoirs ? À ce que vous pouvez voir ou faire ?»
Avant que Paul ait pu répondre, Alia intervint.
« Ma chère Irulan, la prescience ne connaît pas de limites. Est-elle inconsistante ? La consistance n'est pas un aspect nécessaire de l'univers.
Mais il vient de dire, comment mon frère pourrait-il vous donner des informations explicites sur les limites d'une chose qui n'en a pas ? Les frontières échappent à l'intellect. »
« Une détestable initiative, » se dit Paul. Irulan allait en être alarmée, elle qui était douée d'une conscience si méticuleuse et qui dépendait de valeurs issues de limites précises. Il regarda Corba qui assumait une attitude de rêverie mystique, qui écoutait avec son âme. Il se demanda quel usage les Kuisara feraient de cette conversation. Un peu plus de mystère religieux, un peu plus de respect, sans doute. « Vous allez donc signer le traité dans sa forme présente ?» demanda Stilgar. Paul sourit. L'issue de l'oracle pour Stilgar était fermée. Stilgar ne visait que la victoire, et non la vérité. La paix, la justice et une monnaie solide, tels étaient les amarres de son univers. Pour l'instant, il voulait quelque chose de visible, de réel. Une signature au bas d'un traité.
« Je signerai. » dit Paul.
Stilgar prit un nouveau dossier.
Les derniers rapports de nos commandants dans le secteur Ixien font état d'une certaine agitation en vue d'une constitution.
Le vieux Fremen regarda Shiny, qui haussa les épaules. Irulan, qui avait fermé les yeux et placé les mains sur son front, comme pour faire appel à sa mémoire, parut se réveiller brusquement et adressa à Paul un regard intense.
La Confédération Ixienne offre sa soumission, expliqua Stilgar. Mais les négociateurs discutent le montant de l'impôt impérial qu'ils ne...
Ils exigent une limite légale à la volonté impériale, interrompit Paul.
Et qui me gouvernerait? Le Landsrad ou la Chom?
Stilgar sortit du dossier une note sur papier autodestructeur.
L'un de nos agents nous adresse ce mémorandum sur une réunion de la minorité Chom.
Il lut d'une voix neutre.
Il convient de s'opposer au trône dans son effort pour atteindre le monopole du pouvoir. Il nous faut clamer la vérité sur l'Atréide et sur la façon dont il manœuvre par le jeu de la législation du Landsrad, les sanctions religieuses et l'appareil bureaucratique.
Il remit la note dans le dossier.
Une constitution,
murmura Shiny.
Paul lui jeta un bref regard avant de revenir à Stilgar.
Ainsi, songea-t-il, le djihad vacille, mais pas assez tôt pour me sauver.
Cette pensée éveilla en lui des courants émotionnels. Il se souvint de ses premières visions du djihad à venir, de la terreur et du dégoût qu'il avait éprouvé alors. À présent, bien sûr, il avait des visions bien plus terrifiantes. Il avait connu la violence réelle. Il l'avait vécu. Il avait vu ses Fremen, forts de toute leur puissance mystique, dévaster l'univers. Le djihad prenait une nouvelle apparence. Ce n'avait été qu'un spasme très bref aux dimensions de l'éternité, mais au-delà montaient des ombres menaçantes que jamais l'univers n'avait connues.
« En mon nom, » se dit Paul. « Tout cela, en mon nom. »
« Peut-être pourrait-on leur donner une sorte de constitution ?»
avança Shiny.
« Inutile qu'elle soit authentique ?»«
La duperie est un instrument du pouvoir, »
dit Irulan.
« Il y a des limites au pouvoir, »
dit Paul.
« Et ceux qui mettent leurs espoirs dans une constitution les découvrent toujours. »
Corba se redressa brusquement. « Monseigneur ?»«
Oui ?»
Paul songea, « nous y voici. »
Celui-là doit abriter en lui bien des sympathies pour une règle imaginaire de la loi.
Nous pourrions commencer par une constitution religieuse, dit Corba. Quelque chose qui ferait que les fidèles...
Non, ce sera un ordre du conseil.
Entendez-vous cela, Irulan?
Oui, monseigneur.
La voix de la princesse était froide. Elle n'aimait pas jouer le rôle de greffier.
Les constitutions sont l'aboutissement ultime de toutes les tyrannies, reprit Paul. Elles organisent le pouvoir sur une vaste échelle afin qu'il ne puisse être renversé. La constitution n'a pas de conscience. C'est la mobilisation du pouvoir social. Elle peut briser le plus grand comme le plus petit, balayer toute dignité, toute individualité. Son point d'équilibre est variable et elle ne connaît pas de limitation.
Moi, par contre, j'ai les miennes. Dans mon désir de protéger mon peuple, j'interdis toute constitution.
Ordre du conseil, date, etc., etc.
À propos du souci des Ixiens en ce qui concerne l'impôt, monseigneur, demanda Stilgar.
Paul surprit l'expression sombre de Corba avant de demander,
oui, Stil, tu as une proposition à faire?
Nous devons avoir le contrôle des impôts, sire.
La soumission de la confédération Ixienne à notre impôt est le prix que la guilde devra payer pour ma signature au bas du traité de Tupili.
La confédération ne peut faire de commerce sans les transports de la guilde. Elle paiera.
Très bien, monseigneur.
Stilgar présenta un nouveau dossier et s'éclaircit la gorge.
Le rapport de la Quisarat sur Saloussa Secundus. Le père d'Irulan a fait manœuvrer sa légion pour des opérations de débarquement.
Irulan se perdit tout à coup dans l'examen de la paume de sa main gauche. Une veine palpitait à son cou.
« Irulan, » dit Paul,
« persisterez-vous à me prétendre que la légion de votre père n'est pour lui qu'un jouet ?»«
Il n'en a qu'une seule. Que pourrait-il en faire »
demanda-t-elle, et ses yeux étaient deux fentes sombres.
« Il pourrait se faire tuer, par exemple, »
dit Shiny.
Paul acquiesça.
« Oui, et la faute rejaillirait sur moi. »
« Je connais certains commandants du djihad, » dit Alia, « qui applaudiraient à cette nouvelle. »«
Mais ce n'est qu'une force de police, »
s'exclama Irulan.
« Une force de police n'a nul besoin de se lancer dans des manœuvres de débarquement, » dit Paul. « Je suggère que vous mettiez dans votre prochaine note à votre père le résumé direct et franc de mon opinion quant à sa position délicate. »
La princesse baissa les yeux.
« Oui, monseigneur.
J'espère que cela mettra un terme à cette question. Mon père ferait un bon martyr.
Fit Paul.
Ma sœur n'adressera aucun message à ses commandants auxquels elle a fait allusion, aussi longtemps que je ne lui en donnerai pas l'ordre.
Une attaque contre mon père comporterait des dangers autres que militaires, dit Irulan. Le peuple commence à manifester une certaine nostalgie de son règne.
Un jour, vous irez trop loin !»
lança Shiny, la voix empreinte d'une mortelle gravité Fremen.
« Il suffit !» s'exclama Paul.
Il réfléchit à ce que venait de révéler Irulan. Oui, il y avait une note de vérité dans ses paroles. Une fois encore, elle prouvait sa valeur.
« Le Bene Gesserit adresse une requête de pure forme, » poursuivit Stilgar en ouvrant un nouveau dossier. « Les sœurs désirent vous rencontrer pour évoquer la préservation de votre lignée. »
Shiny coula un regard méfiant vers le dossier, comme s'il contenait quelque redoutable engin de mort. « Présente-leur mes excuses habituelles, » dit Paul.
« Est-ce bien indiqué ?»
demanda Irulan.
« Peut-être, »
intervint Shiny.
« Le moment est-il venu d'en discuter ?»
Paul secoua la tête. Il ne devait pas savoir que cela faisait partie du prix qu'il ne s'était pas encore décidé à payer. Mais Shiny insista.
« J'ai été au mur des prières du Siech Taber où je suis né. Je me suis présenté au docteur. Je me suis agenouillé dans le désert et j'ai projeté mes pensées jusqu'aux profondeurs où vit Shai Holud. Pourtant, »
elle haussa les épaules,
« c'est inutile. »
La science comme la superstition ne peuvent rien pour elle, songea Paul. Et moi non plus, qui ne lui ai pas dit ce qui menacerait dès lors qu'il naîtrait un héritier à la maison des Atréides. Il releva la tête et surprit une trace de pitié dans le regard d'Alia. Il éprouva de l'inquiétude à l'idée que sa sœur puisse concevoir de la pitié à son égard. Avait-elle entrevu, elle aussi, ce terrifiant avenir ?
« Monseigneur doit savoir les dangers qui menaceront le royaume s'il ne lui naît pas d'héritier, » dit Irulan, en utilisant les facultés de persuasion Bene Gesserit de sa voix avec une douceur onctueuse.
Ces questions sont évidemment difficiles à évoquer, mais il convient de les mettre pleinement en lumière. Un empereur est plus qu'un homme. Il domine le royaume. S'il meurt sans héritier, des troubles civils peuvent s'en suivre. Vous aimez votre peuple? Vous ne pouvez donc lui léguer cela?
Paul quitta la table et gagna le balcon. Au dehors, le vent inclinait les colonnes de fumée des feux de la cité. Le bleu argent du ciel était adouci par la chute de poussière du soir venue du bouclier. Paul porta son regard vers le formidable escarpement qui se dressait au sud et qui protégeait les terres septentrionales du vent de Coriolis. Pourquoi son esprit ne disposait-il pas d'une barrière équivalente? Derrière lui, les autres demeuraient silencieux. Ils attendaient, sachant à quel point il était proche de la fureur. Paul percevait le déferlement du temps. Il essayait de trouver un point au centre des équilibres multiples. Un point à partir duquel il pourrait façonner un nouvel avenir.
Retire-toi. Retire-toi. Que feraient-ils tous s'ils partaient, lui et Shiny, s'ils cherchaient refuge sur Tupili? Son nom resterait derrière lui. Le djihad trouverait des pivots nouveaux et encore plus redoutables, et il en porterait la responsabilité. Il sentit monter la peur en lui, la peur de briser ce qu'il avait de plus précieux en tendant la main vers une chose nouvelle. Au bruit le plus infime, l'univers pouvait se disloquer, se fragmenter, sans rien laisser qu'il pût récupérer. La place était emplie de pèlerins vêtus aux couleurs vert et blanc du Hajj. Leur flot ondulant évoquait un grand serpent aux anneaux disjoints. Cette image lui rappela que la salle d'audience devait être pleine de fidèles venus présenter leurs suppliques. Des pèlerins. Pour l'Empire, ils représentaient une source de revenus importante. Importante et répugnante. Le Hajj lançait des cohortes de vagabonds religieux sur les chemins de l'espace. Ils allaient de monde en monde et affluaient sans cesse. « Comment ai-je pu faire naître cela ?» se demanda Paul, contemplant toujours la foule blanc et vert. Mais bien sûr, le mouvement était né de lui-même. Au long des siècles, dans l'architecture des gènes, était apparu le schéma de ce spasme si bref à l'échelle du temps. Poussés par l'instinct religieux le plus profond, ils aboutissaient sur Arrakis. Arrakis, lieu de la renaissance et de la mort. Les vieux Fremen disaient que Paul convoitait l'eau des pèlerins. Mais les pèlerins, eux, que cherchaient-ils vraiment? Ils prétendaient que ce lieu était saint. Pourtant, ils devaient savoir que l'univers ne possédait aucun Éden, aucun Tupili des âmes. Pour eux, Arrakis était la capitale de l'inconnu, la planète où tous les mystères recevaient une explication. Un lien entre cet univers et celui à venir. Et ce qu'il y avait de plus effrayant, c'était qu'ils repartaient apparemment satisfaits. « Que trouvent-ils ici ?» se demanda Paul. Souvent, au plus fort de leur extase mystique, ils envahissaient les rues d'Arrakin en poussant d'étranges cris d'oiseaux. Les Fremen, en fait, les appelaient « oiseaux de passage ». Ceux qui mouraient sur Arrakis étaient considérés comme des âmes ailées. Avec un soupir, Paul songea que chaque planète annexée par ses légions livrait un nouveau contingent de pèlerins. Emplis de gratitude, ils affluaient vers la paix de Muad'Dib. La paix de toutes parts, se dit-il. Dans tout l'univers, sauf dans le cœur de Muad'Dib. Il lui semblait qu'une fraction de lui-même était plongée dans des ténèbres glacées et infinies. Ses pouvoirs de prescience lui avaient montré l'univers investi par l'humanité. Il avait fait trembler le cosmos tranquille et à la sécurité avait succédé le djihad. Il avait surcombattu, surpensé, surprédit cet univers humain. Pourtant, il avait la certitude qu'il lui échappait toujours. Ce monde qui l'environnait était devenu par lui un paradis baigné d'eau, un univers vivant. Il le sentait, il en percevait la pulsation. Comme un être humain, ce monde le combattait, lui résistait, glissait entre ses doigts à chacun de ses ordres. La main de Shiny se glissa dans la sienne. Il se retourna et lut la tristesse dans ses yeux. Elle murmura « Je t'en prie, mon amour, ne lutte pas avec ton roux. » Il lui sembla soudain qu'un torrent d'émotions venait de Shiny, se déversait en lui par sa main, le noyait. « Sihaya, » chuchota-t-il. Bientôt, nous pourrons gagner le désert. » Il serra sa main un instant encore, puis revint à la table et demeura debout. Shiny regagna sa place. Irulan regardait les dossiers disposés devant Stilgar. Ses lèvres étaient serrées, figées. « Irulan se propose comme mère de l'héritier impérial, » dit Paul. Il regarda Shiny, puis Irulan, qui détourna la tête. Il poursuivit. « Nous savons tous qu'elle ne nourrit aucun amour pour moi. » Irulan devint de pierre. « Je connais les arguments politiques, » dit Paul. « Mais ce sont les arguments humains qui m'intéressent. Je pense que si la princesse n'était pas liée par les commandements du Bene Gesserit, si elle n'agissait pas dans son intérêt personnel, mue par sa soif de pouvoir personnel, ma réaction serait toute différente. » Dans la situation présente, je dois rejeter sa proposition. Irulan inspira profondément, avec un tremblement. Regagnant son siège, il pensa que jamais encore il ne l'avait vu relâcher à ce point son contrôle. Il se pencha vers elle et dit « Irulan, je suis vraiment navré. » Elle leva la tête et il y avait de la fureur dans son regard. « Je n'ai que faire de votre pitié. » siffla-t-elle. Elle se tourna vers Stilgar et demanda « Y a-t-il d'autres questions urgentes ?» Stilgar, en regardant Paul dans les yeux, répondit « Un dernier problème, monseigneur. La guilde demande à nouveau une ambassade sur Arrakis. » « Un représentant de l'espace profond ?» demanda Corba avec un accent de dégoût fanatique. « Sans doute, » dit Stilgar. Voici une question à examiner avec le plus grand soin, reprit Corba. La présence d'un représentant de la guilde ici sur Arrakis offenserait le conseil des Naïbes. Les gens de la guilde pourrissent le sol qu'ils touchent. Ils ne touchent rien, ils vivent dans des cuves, dit Paul sans chercher à dissimuler sa soudaine irritation. Les Naïbes pourraient se charger de cela, monseigneur, reprit Corba. Et comme Paul lui jetait un regard menaçant, il insista. Ce sont des Fremen, après tout, monseigneur. Nous n'avons pas oublié que c'est à la guilde que nous devions nos oppresseurs, ni le chantage à l'épice pour que nos secrets ne soient pas divulgués à nos ennemis. La guilde nous a pris toutes.
Ça suffit,
lança Paul.
Croyez-vous que moi, j'ai oublié ?
Comme s'il comprenait soudain la portée de ses paroles, Corba s'interrompit, puis bredouilla.
Monseigneur, pardonnez-moi. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas un Fremen.
Ils vont envoyer un navigateur, dit Paul. Mais il est peu probable qu'un navigateur se risque en un endroit où il décèle du danger.
Irulan, la bouche soudain sèche, demanda.
Vous avez vu un navigateur arriver ici, sur Arrakis ?
Non, je ne l'ai pas vu, bien sûr, dit Paul en imitant son intonation. Mais je peux savoir où il était et où il se rend. Qu'il nous l'envoie. Peut-être me sera-t-il utile.
Il en sera selon vos ordres, dit Stilgar.
Et Irulan, dissimulant un sourire derrière sa main levée, songea.
C'est vrai. Notre empereur ne peut voir les navigateurs. Ils s'aveuglent mutuellement. La conspiration demeure cachée.